Bonsoir, Monsieur Moussa, et merci pour ces questions. Alors, par rapport à la première question qui est celle de savoir quel est l'impact, en fait, de la mobilisation ou bien des mesures prises pour la lutte contre le Covid-19 sur les activités humanitaires, il faut dire que il peut y avoir plusieurs impacts. Parce que la batterie des mesures qui ont été prises inclut notamment des restrictions sur les mouvements interurbains. Et ça, c'est déjà un grand problème en termes de mobilisation et de déploiement, si vous voulez, des acteurs humanitaires donc sur le terrain auprès des populations pour déployer l'aide dont ces populations ont besoin. Et n'oubliez pas que dans le cadre des opérations La Couleur de Burma, qui malheureusement ont coïncidé aussi avec l'annonce en quelque sorte des premiers cas de Covid au Tchad, il y a eu de nouveaux mouvements de population, n'est-ce pas, des zones frontalières du Fouli et de Kaya, qui ont été appelés par la République donc à venir plus à l'intérieur des terres. Ceci dit, des nouveaux déplacés internes qu'il faudrait gérer. OCHA parle d'environ 20 000 personnes en plus déplacées suite à l'attaque de Boko Haram et à la riposte donc de l'armée tchadienne. Ça veut dire que devant cette situation, vous voyez, je pense qu'il y a nécessité d'assistance humanitaire accrue. Mais comment déployer cette assistance donc dans ce contexte d'insécurité d'un côté et dans un contexte où les mouvements sont restreints sur le terrain? Je pense que ça va être en fait le premier impact de la mobilisation contre le Covid sur ces activités. Mais il y a d'autres, c'est toute une batterie de mesures en fait. Il y a aussi des mesures comme les interdictions de réunion, il y a le couvre-feu, etc. Donc je pense que il y aura absolument des impacts au minimum sur la capacité de mobilisation et de mobilité des acteurs humanitaires vers les populations concernées. Comment rassembler ces populations et déployer leur intention, ça reste des questions. Maintenant, par rapport à l'opération La Colère de Boma et à la mobilisation ou bien à la collaboration entre le Tchad et ses partenaires de la sous-région bassin du lac Tchad, il faut admettre que les zones couvertes par l'opération sont des zones situées majoritairement sur le Tchad, une partie du Niger et du Nigeria. Et je pense que c'est pour cela que c'est à ces deux pays que l'État tchadien a expressément demandé l'autorisation de mettre pied sur leur territoire pour poursuivre les opérations. Mais je ne pense pas que le Cameroun ait refusé. Si, en son temps, il avait été demandé au Cameroun, dans le cadre de cette opération, de laisser les Tchadiens entrer sur le territoire national camerounais, je doute que les autorités camerounaises auraient refusé parce que l'ensemble de ces quatre pays, il faut l'admettre, on collabore déjà sur le terrain dans les opérations de lutte contre le terrorisme. Voilà donc. Et maintenant, Monsieur Mouta, toujours par rapport à vos questions donc sur les retombées des offensives de la colère de Boma, vous posez la question de savoir laquelle, en fait, des factions de Boko Haram a été le plus touchée. Je pense qu'il va de soi que c'est la faction qui a été l'auteur de cette attaque ou bien qui a revendiqué cette attaque. Et c'est la faction Jamaat al-Sunna, l'Idawat ou al-Jihad, communément appelée JAS, commandée par Chekaou. Donc cette faction est celle qui a perpétré cette attaque. Et effectivement, c'est contre cette faction que l'offensive a été la plus forte. L'autre branche, donc l'État islamique province Afrique de l'Ouest, a aussi été touchée, mais c'est principalement les éléments de la faction commandée par Chekaou, dispersés autour des zones marécageuses et des îles du lac Tchad côté tchadien, une partie du Niger et du Nigeria. C'est ceux-là qui ont subi en fait d'abord les affres donc, de l'opération La Colère de Boma. L'État tchadien parle d'un millier d'entre eux qui auraient été tués et plusieurs autres arrêtés. Donc c'est surtout cette faction ouais, qui a souffert les affres de La Colère de Boma. Vos dernières questions est celle de savoir, après si vous voulez, le nettoyage, donc, disons, lacustre du Tchad, des îles et des marécages côté tchadien. Quels sont les besoins des populations sur le terrain? Je pense que dans une zone pareille, les besoins sont multiples. Les besoins sont multiples et elles sont très grands. Mais l'opération La Colère de Boma et puis l'insécurité de manière générale a induit en fait de très forts mouvements de population. Donc il y a une situation humanitaire absolument tendue et qui mérite d'être considérée et qui mérite absolument réponse très vite. Donc ça c'est le premier besoin, et quand on dit situation humanitaire tendue, c'est l'aide de première urgence. Ça veut dire des abris, une prise en charge sanitaire, une prise en charge alimentaire, une prise en charge en termes de protection, une prise en charge psychosociale qui doit être immédiatement mise en place pour ces populations déplacées avant de penser donc à une phase plus à moyen terme d'installation ou de développement, etc. Mais immédiatement, c'est d'abord ça. Mais en dehors des populations déplacées, je pense que de manière générale, dans ces zones, le premier besoin des populations est aujourd'hui la sécurité. La sécurité, ça veut dire que si les îles ont été nettoyées, comme les forces armées nationales italiennes le disent, il faudrait maintenant déployer sur ces îles-là des forces de deuxième niveau qui puissent assurer la sécurité quotidienne. Un travail de police et de sécurisation, mais il faudrait aussi que très vite, en fait, l'État manifeste sa présence dans ces endroits sous une autre forme, en plus de la forme militaire et sécuritaire. Ça veut dire un appel à déployer les agents de développement, à déployer les services déconcentrés de l'État qui puissent fournir à ces populations le minimum de services de base nécessaires pour manifester la présence de l'État, assurer sa légitimité dans le cœur et dans l'esprit des populations et les récupérer en fait des mains de ces terroristes qui les instrumentalisent et qui en abusent aussi. Donc voilà, il y a des besoins humanitaires très urgents auxquels il faut répondre, mais il y a aussi des besoins simplement de sécurisation quotidienne, des besoins de services sociaux de base à assurer de manière durable. Voilà, pour que la situation ne retombe pas dans ce qu'on a déjà connu. Merci.